Toujours bien accompagné. Des fois, c'est Pinchot, des fois, c'est Pascal CV. Et ce matin, chaise musicale, c'est Pascal qui est là.
Pascal est là.
Audrey est dans le studio avec Mademoiselle V.
Yes.
On se sépare les équipes pour préparer du contenu sur les ondes de Boulevard 102.1. Audrey qui fait son fameux podcast Sextape.
Exactement.
Puis là, je suis rentré en studio.
T'es allé cornifler.
Ouais, pour ceux qui ont déjà vu le décor là, de Sextape, il a comme changé là, par rapport à l'année passée. Ils ont comme mis des divans de cuir ou de cuirette. Puis, il y a Audrey ou Mademoiselle V qui ont amené des petits coussins en pénis.
OK.
Et là, moi, je rentre dans le studio pour savoir si elle avait envoyé le fameux zoom au doc Boucher qu'on va recevoir ce matin. Puis elle a son fameux coussin en pénis dans les mains.
C'est sûr qu'on comprend que c'est pas un podcast de comptable.
Et mon premier réflexe de lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais? »
C'est sûr qu'elle l'avait de façon totalement normale,
oui,
en plus.
Sans...
Connaissant Audrey, le candidement.
Sans réfléchir à ce qu'elle avait dans les mains. Elle est en train de caresser son coussin.
Oh, OK. Ouais. C'est plus que je pensais, par exemple.
Exactement. Ça va, Pascal CV?
Ça va bien.
Oui.
En feu.
Bon.
Malheureusement pour toi. Toi, comment vas-tu?
Ça va mieux qu'hier. Hier, j'avais l'impression d'être dépassé par tout.
Ouais.
Ça a commencé le matin. J'étais dans le trafic hier matin. Il était 6h30. Il y avait du monde partout sur la route. Puis je regardais la température. Je me disais, OK, le printemps, il s'en vient plus. Là. Il va neiger. Là. Effectivement, il ne fait pas super beau. Mes idées étaient chamboulées.
C'était un peu plus difficile là, cognitivement pour toi hier.
Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça vous fait ça, vous autres, des fois?
Tu m'as appelé Martine 150 fois. Je comprends pas c'est qui Martine dans ta vie, mais choyer, tu penses souvent... Ben choyer, ça dépend pour qui, là, mais
j'ai
tu penses souvent à elle.
Sorti qu'une Martine, jamais fréquenté de Martine, jamais embrassé de Martine.
Ben, c'est peut-être ça, là.
C'est ça, le problème. Mais c'est ça. Hier, c'était une journée à oublier pour moi. Je me suis couché hier soir, puis bon, je faisais le tour de l'actualité, là, mais je me suis couché hier soir, je me suis dit, hey, j'espère que demain, ça va être mieux. Puis je pense qu'on se plaint des fois, le ventre plein. Tu sais, je suis en santé, je veux dire, je travaille.
Deux beaux enfants.
Je manque de rien. Mes enfants sont en santé. Je suis entouré de gens que j'apprécie et qui semblent m'apprécier. C'est sûr, ça me coûte un peu plus cher, mais ils semblent m'apprécier pareil. Fait que on se plaint juste pour rien. Fait que hier, je me suis dit, je me couche là-dessus, puis demain, je vais me réveiller
mais
en étant positif.
Mais autocompassion, connais-tu ça, ce terme-là?
C'est quoi ça?
L'autocompassion.
C'est bon,
clairement, ton cerveau ne sera pas là des fois. Là,
compassion, mais... ça, je sais, c'est quoi?
Puis
Avoir
de la compassion pour soi-même.
Exact.
Je vais juste t'aider, là. Je ne veux pas te scraper le cerveau. Je ne veux pas que ça sorte le brûler aujourd'hui aussi.
Oui.
Mais ça, c'est important, Yannick. Hier, c'était une moins bonne journée. Tu t'es couché, elle est terminée, on passe à une autre. Puis, tu sais, vois-tu, tu te sens beaucoup mieux aujourd'hui.
Ben oui,
on va voir les fruits de tout ça dans les deux émissions qu'on va faire ensemble. Là. Ça se peut qu'à un moment donné, dans 2 heures, il reste un peu moins de gaz. Mais autocompassion, ça veut dire tranquillement, pas vite, Yannick. Tu dois accepter que c'était une mauvaise journée. Puis après ça, ben, c'est bien. Mais en même temps, là, chaque montagne est différente pour tout le monde.
Hein. Moi, je me fais juste me fermer les yeux en passant.
Oui, je sais, mais c'est ça le problème. C'est parce que rien ne change par
je
la suite.
Je me dis, demain, ça va aller mieux. Je me ferme les yeux, je dors, je me réveille le lendemain, puis c'est une autre journée.
Je pense que c'est ça la différence. Nous, on passe plus de temps à penser pour vous autres que vous passez de temps à penser, point.
Ouais.
Comprends-tu
la phrase? Le pire, c'est après avoir fait l'amour, vous nous demandez toujours à quoi on pense.
Hein?
On pense jamais à rien.
Premièrement, quel exemple saugrenu.
T'as jamais demandé ça à aucun de tes ex-chums.
À quoi tu penses?
Après avoir fait l'amour. T'as jamais demandé ça.
Mais à quoi tu penses? J'ai déjà demandé ça. Mais après avoir fait l'amour, pourquoi est-ce que ce serait là que je le demanderais?
C'est une bonne question.
Mais j'avoue que tu me pièges un peu parce que j'aime beaucoup ça.
Mais je me l'ai fait souvent. Je me l'ai fait souvent demander. À quoi tu penses? Mais souvent,
c'est le fun,
nous
ça.
Autres, après, on pense à rien. Là. C'est comme on est juste bien. Puis on s'en va dans les bras de Morphée, on s'en va dans les bras d'une autre. Et voilà.
Moi, je suis peut-être plus psychopathe que ça. Là. Je le demande, mettons,
ça, c'est vrai.
Dans un moment tranquille. « Hey, à quoi tu penses?
Ouais. »
Mais souvent, c'est parce que c'est ça qui est le fun. Tu apprends à connaître la personne par à quoi elle pense quand tu as personne qui parle ou qu'il n'y a rien qui se passe.
Ouais. Le pire, c'est quand tu connais à peine la personne, parce que c'est déjà arrivé à tout le monde. Là. On n'est pas des mauvaises personnes pour autant. Mais c'est quand tu connais à peine la personne puis la fille t'a dit « À quoi tu penses? » Puis là, tu te dis dans ta tête « Hey, il faut que je trouve quelque chose d'intelligent. »
Non, mais si tu penses à rien.
Puis tu sors n'importe quoi.
Moi, ça me surprendrait pas que vous pensiez à rien des fois. « Ah, oh, belle lumière. »
Mais c'est à ça qu'on pense. On pense absolument
Est-ce
à
que
rien.
Pour vrai?
Pour de vrai?
Mais il y a vraiment des moments où dans ta tête, il n'y a rien.
Rien. Rien.
Mais
je peux
rien
jouer.
Rien, un vide, genre t'as un fixe sur quelque chose, puis il y a vraiment rien.
Jeudi passé, là, je peux te donner un exemple. Là. J'étais chez nous, puis là, je voyais que j'avais comme une demi-heure, 45 minutes de lousse, il n'y avait personne à la maison. Fait, je me suis dit, je vais aller essayer d'augmenter mes stats au hockey. Enfin, c'est pas jeudi, c'est mercredi passé. Je vais essayer d'essayer d'augmenter mes stats au hockey. Fait que j'ai embarqué sur le Xbox.
OK. Puis, oh non.
J'ai fait opposition en ligne. Puis pendant 45 minutes, j'ai pensé à rien, si ce n'est que de jouer au Xbox. Après ça, tu laisses la manette.
Mais tu faisais quelque chose.
Oui, mais tu penses à rien.
Oui, mais ça,
tu causes pas la tête.
C'est un vide-tête. Ça, j'en conviens. Mais mettons que tu es assis sur ton divan, il n'y a rien. Tu n'as pas de stimulation quelconque. Ça t'arrive qu'il n'y ait rien dans ta tête?
Ben oui, vraiment.
J'ai tellement... Ça m'est jamais arrivé, je pense, dans ma vie.
Dimanche soir, je suis leur console mes enfants. Puis le soir, à la radio, malheureusement, il n'y a rien. Là. Fait que je me suis dit, tiens, je vais juste tout simplement éteindre la radio. C'est très rare que je fais ça.
Là, t'es dans le vide, le complet
de
son,
d'image. Dans le vide complètement. Je suis l'autoroute 73, puis je descends jusqu'à chez nous à Val-Bélair pendant 30 minutes, puis pas à rien. Il n'y a rien qui se passe dans ma tête.
Pourtant, quand tu conduis, normalement, puis il n'y a rien, c'est là que ta tête là, prend plein de place, tu te mets à réfléchir à plein de trucs, tu es créatif. Toi, tu avais le vide.
Faut que tu te donnes la peine de le faire. Quand ton cerveau commence à s'emballer puis tu veux aller là, c'est parfait. Parce que là, c'est vrai que la créativité, elle arrive puis tu penses à plein d'affaires et tout ça. Mais juste à être légume là, sur l'autoroute, capable de le faire.
Arrête!
Aucun problème.
Ça s'achète-tu des pilules, ça, pour ça?
Ça s'appelle être un homme.
En passant, Morphée, c'est un homme. Fait que si tu t'endors dans ses bras, sache-le, Yannick, va falloir que tu sois plus ouvert.
On est en 2025, vous êtes qui pour présumer ça?
Ah, moi, ça me dérange pas, là.
418-971-1021, 418-971-1021, vous êtes dans l'open mic. C'est Pascal CV qui remplace Audrey, qui devrait être de retour à son poste demain.
Absolument.
Ben oui. Plein de sujets à vous jaser aujourd'hui. Tantôt, on reçoit le doc Boucher, Denis Boucher, docteur en médecine expérimentale. Lui, il aime les petits gros, puis les petits gros, ben au départ, il déteste, mais une fois qu'ils se font aider par le doc Boucher, ben les petits gros l'adorent.
C'est sa marque de commerce, dire ça, hein?
Oui,
il s'est jamais fait rabrouiller.
Écoute, je l'ai entendu dans un podcast, je braillais de rire.
Okay.
Tu sais, Doc Boucher, c'est un gars qui a été dans le domaine de la santé depuis, je ne vais pas le vieillir, mais là-dedans depuis au moins 30 ans. Il est allé chercher son doctorat en médecine expérimentale. Il a travaillé avec des joueurs de la Ligue nationale pour les aider à performer puis essayer le plus possible de quand ils s'entraînent, d'avoir le meilleur pouvoir possible pour bien s'entraîner et tout ça. Puis il était en discussion avec une dame dans un podcast, puis elle disait que ce qu'elle aimait beaucoup faire, c'était des jeûnes de 12, 18 et 36 heures. Ça l'aidait dans son travail, ça l'aidait dans sa concentration. Okay. Puis le doc bouge. Puis là, il a dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ça, là, de moi là, qui fais des jeûnes? Puis je trouve que c'est super faire des jeûnes parce qu'en plus, je perds du poids. Puis là, ça m'aide à me concentrer.
Elle a l'air tellement douce, elle a l'air tellement heureuse.
Et doc Boucher, dans sa délicatesse, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'aime, il dit, mais quelle vie de merde! Il dit, moi, je mange bien 3 fois par jour, j'ai des collations au travers de ça, et je vis bien, je suis en santé, je travaille, je suis concentré, je crève pas de faim, mais quelle vie de merde!
Je suis quand même d'accord. Hey, moi, pas manger pendant des heures.
Ouais. Puis là, la fille était fourrée un peu parce qu'elle gagne sa vie.
L'asile.
Elle gagne sa vie avec des régimes cétogènes, puis elle gagne sa vie avec en disant...
Mais ça se peut qu'elle soit vraiment bien.
Ben, faites des jeûnes de 12 heures, de 18 heures, de 36 heures. Je sais pas, c'est bien, mais ce que je sais, c'est que le corps humain est pas fait comme ça, tu sais.
Si je me prononce pas, je n'ai aucune compétence là-dedans, mais j'ai une question à te poser.
Oui.
Si dans la vie, je te... Ah, il est comme, merde! Si dans la vie, je te proposais 2 pilules... Tu sais, on le voit souvent, là, ce genre de petite image-là, mais toi, manger, est-ce que c'est alimentaire ou c'est un plaisir? Dans le sens où si je te donne la chance de prendre une pilule une fois par jour, puis ça comble absolument tous tes besoins de minéraux, tous tes besoins de protéines, toute ton alimentation est dans cette pilule-là. T'as pas à croquer, à manger, à goûter des aliments, puis à te faire des repas. Qu'est-ce que tu choisis?
Moi, j'aime manger.
T'es moins psychopathe que je pensais.
Ouais. Il y a des fois que je préférais la petite pilule, là, quand
ça va
pressé,
vite.
Là, mais quand j'ai le temps de m'asseoir tranquille, là, tu sais, comme hier... Hey, la salade, ça m'a coûté 30$ la salade hier.
On a fait tes meilleurs choix.
Sérieux, ça n'a pas de bon sens à quel point j'ai été lâche. Tu sais, au lieu de m'acheter un gros poulet barbecue là, pour avoir du poulet dans ma salade, ben, j'ai acheté juste une petite poitrine de poulet, ça a coûté 9$. 9$.
Mais oui, là, il faut que tu fasses des achats intelligents.
Après ça, je me suis acheté du bacon. Après ça, je me suis acheté de la salade. Après ça, je me suis acheté des avocats. Je me suis acheté des tomates. 30$ pour une salade. J'aurais dû aller au restaurant.
Rendu là, pour vrai, t'aurais peut-être dû aller t'en acheter au resto. Faut juste que tu achètes les choses selon les rabais.
C'est ça. Ben,
correct.
Mais
ta salade, là, tomate, avocat, bacon, poulet.
Ouais.
C'est original. C'est quoi ta sauce?
C'était super bon. C'était de la sauce César.
César, je gâche. Ouais. Mmh. C'est pas très santé en passant.
C'était, ton repas. C'est pas grave.
Mais si t'étais heureux de penser que tu mangeais santé. Exact.
Mais de temps en temps, je prendrais la petite pilule. Quand j'ai pas le temps, là, je prendrais la petite pilule parce que des fois, je fais justement ce fameux régime là, que cette podcasteuse faisait, ouais. C'est-à-dire...
Ne pas manger.
Ne pas manger.
Mais c'est pas par choix, je gâche. Ouais.
Tu sais, Doc Boucher m'avait déjà dit 3 repas équilibrés par jour, mm-hmm. Où tu peux prendre un bon gros déjeuner, un moyen dîner puis un petit souper, mais l'important, c'est de manger 3 fois par jour.
Mais il a raison.
Pour
là.
Être sûr que tu manques de rien. Puis ce qui est curieux avec ces petits gros qui perdent du poids avec Doc Boucher, c'est que bien souvent, ils mangent plus qu'avant.
Moi, ça me terrifie. C'est la chose qui me terrifie le plus parce ouais. que pendant 10 ans, j'ai fait un horaire du matin puis t'as pas faim. Tu te lèves, t'as quasiment mal au cœur. Tu prends ton café, à un moment donné, dans l'émission, t'as faim. Fin, là. Tu dévorerais l'épicerie au complet. Tu sors de là, t'as plus faim. Tu manges beaucoup plus au souper. C'est un horaire pour prendre du poids. Fait que je salue tous ceux qui ont des horaires atypiques, là, que ce soit en santé ou autre, là. C'est vraiment difficile. Puis après, ton diététiste, il dit, « Ah, faudrait que tu manges 2 œufs cuits durs à 4 heures du matin. » Entre ouais. ça, puis... pogner l'herpès, là. Je peux douter, là. Vraiment, sur ce que je préfère.
Parce qu'on m'a dit, l'herpès, ta vie.
mais c'est vraiment tough de réussir à s'alimenter en ayant pas mal au cœur. Ouais. Mais si tu t'alimentes pas, tu prends du poids. Et après, il te fait manger, là.
Ouais.
Là tu viens terrifié parce que tu dis, c'est sûr que c'est maintenant que je prends du poids. Mais au contraire.
Mais
au
lui, contraire. C'est basé sur ses patentes. Ce qu'il va peut-être nous expliquer tantôt, là, parce que j'avais pas vraiment prévu parler de ça, mais je vais peut-être lui demander de le répéter, c'est que. Il préfère que tu perdes un petit peu de poids par semaine, mais que ce soit tout le temps progressif,
constant,
là,
ouais.
Que tu en perdes beaucoup au départ, puis que tu sois super satisfaite de ses services.
Ouais.
Parce qu'il dit que ton cerveau va s'habituer à avoir des petites carences qui vont faire en sorte qu'il va aller piger dans les réserves.
Ouais.
Mais si tu l'habitues à la privation, ben lui, quand tu vas recommencer à manger, il va se souvenir de ça, puis il va recommencer à stocker.
Mais c'est vrai.
Ben c'est un médecin.
Mais je sais, mais moi, mettons, j'ai expérimenté personnellement ça.
Oui.
C'est vraiment challengeant. C'est vraiment, vraiment challengeant. Puis c'était une passe où, bon, peu importe, là. Mais quand j'ai recommencé à manger normalement, là, tabarnouche. Il fallait que ton estime soit alimentée d'une autre manière. Là.
Ouais.
C'est difficile, l'alimentation. Puis d'aller consulter les experts puis de parler à un Doc Boucher de ce monde et autres, là, ça change beaucoup de choses
ça
dans ta perception.
Ça peut être confrontant pour certaines mais personnes, oui. incluant les gens qui font le fameux régime cétogène, là, puis qui s'est quasiment rendu une secte là, quand tu embarques là-dedans. Tu sais, Doc a eu des menaces. Là. Des menaces à son égard. Isabelle Huot, tu sais. Isabelle Huot qui pèse 120 livres mouillée, là, qui est diététicienne oui. de mémoire. Elle a parlé de ce régime-là comme étant pas nécessairement le meilleur des régimes à suivre pour perdre du poids. Puis à un moment donné, elle a eu peur. Là. Des gens qui la menaçaient. Là. Ah, il y en a qui sont weird. Hey, je veux te parler de quelque chose qui m'intéresse depuis des années et des années. J'imagine que je suis pas le seul. Vous vous souvenez de l'affaire Cédrica Provencher?
Absolument.
On n'a toujours pas déclaré coupable l'individu qui a tué Cédrica Provencher. On a des doutes sur certains individus. On a eu des doutes sur Jonathan Betté, qui d'ailleurs a intenté un procès contre la Sûreté du Québec. Et l'auteur Stéphane Parent s'apprête à lancer une réédition du livre consacré à l'affaire Cédrica Provencher qui est paru en 2019. Puis ça va être une version mise à jour. Fait qu'ils vont consacrer justement un nouveau chapitre au procès intenté par Jonathan Betté contre la Sûreté du Québec. Mais aussi, il va parler d'une nouvelle technologie avec l'intelligence artificielle qui pourrait permettre de faire progresser enfin l'enquête.
Hey, ça, là, c'est-tu un rêve de communauté? Honnêtement, là?
Ouais, il y a une caméra qui avait filmé la fameuse Acura de Jonathan Betté à la station-service Irving, qui a changé de nom aujourd'hui, s'est rendu un SO à Trois-Rivières. Puis ce qu'on sait, c'est que c'était Jonathan Betté qui était à l'intérieur de ce véhicule-là ce soir-là. Puis jusqu'à maintenant, avec les images de la caméra, ça ne nous permet pas de savoir s'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. Mais avec l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle est capable d'aller regarder ce qui se passe dans les pixels puis créer
le mouvement,
la zone
voir,
d'ombre.
Là, mouvement, ouais.
Il est capable d'aller chercher une forme de visage puis peut-être même l'améliorer, ce dit visage-là, s'il y avait une autre personne dans le véhicule. Ce genre de technologie-là, elle s'en vient à grands pas. Puis dans 5, dans 10, dans 20, dans 30 ans, on va peut-être être capable d'élucider des meurtres. Puis je dis pas que Jonathan Betté a commis ce meurtre-là, là. Mais on va peut-être être capable d'élucider des meurtres qu'on n'était pas capable de faire dans les années 90 ou dans les années 2000.
La question qui m'est venue tout de suite en tête quand j'ai vu les premières lignes de l'article, c'est « OK, mais est-ce que c'est retenable en cours? Est-ce qu'on peut retenir cette stratégie-là, qui n'est pas, mettons, scientifique encore, mais qui est plus du côté technologique, en cours? Est-ce que ça peut être recevable? » Puis aux États-Unis, entre autres, ça aurait aidé dans certaines enquêtes. Il y a eu des résultats probants qu'on disait, mais c'était irrecevable comme genre de preuve. Dans l'État de Washington, en 2024, on a essayé, puis c'est NBC News qui avait rapporté un genre de débat quand même éthique, puis judiciaire, puis aussi, bon, dans le cadre légal à ce sujet-là par rapport à l'influence de l'intelligence artificielle. Fait que je me demande si on n'a pas... Oui, la possibilité d'aller plus loin dans l'enquête, mais que ça ne sera pas recevable en cours. C'est un peu mon inquiétude qu'on se bute encore un mur.
Parce que je ne sais pas pourquoi le juge a jugé cette preuve-là irrecevable, parce qu'on était capable d'aller chercher les zones d'ombre et de créer un visage avec l'intelligence artificielle. Peut-être que les juges n'en sont tout simplement pas rendus là. Les juges, pas des experts dans tout, là. C'est des experts en droit, puis dès qu'il y a un doute, ils sont obligés de libérer la personne puis de ne pas la déclarer coupable. Ici, au Canada, je ne sais pas comment ça pourrait être perçu, tu sais. Mais ça nous permettrait de savoir si elle était bel et bien dans le véhicule ou non, là.
Et si ça ajoute ça au dossier, comment est-ce qu'on va gérer la suite des choses? Parce qu'il y a encore du monde, puis avec raison, je veux dire, il n'y a rien qui est amené en cours pour accuser un Betté de ce monde. Mais il y a bien des gens qui soupçonnent, qui croient, ou qui ont des certitudes émotionnelles
ben,
par rapport à Jonathan
Betté. C'est encore le suspect numéro un de la Sûreté du Québec, mais ils n'ont pas été capables de le prouver. Écoute, ça date de 2007. Là.
C'est capoté.
Puis on se souvient encore. Il y a des gens qui ont 20 ans aujourd'hui qui n'étaient pas là.
Oui. C'est fou quand tu penses à ça. Quelle image. Ça frappe.
Tu te sens-tu plus vieille, Pascal? Ou ben...
Non, je me sens déjà vieille.
À 31
ans. À 31 ans.
C'est terrible. C'était...
Mais ça, c'est une des histoires les plus... étranges au Québec. C'est comme le petit garçon à Montréal, là, Ariel Kouakou,
oui,
qui avait disparu, qui est toujours porté disparu, qu'on n'a jamais retrouvé. Ça me fascine dans ces ères de temps moderne qu'il n'y a encore aucune possibilité de retrouver des gens qui disparaissent du jour au lendemain, mm-hmm, qu'il n'y ait pas une personne qui est vue, qu'il n'y ait pas une caméra qui est vue. Je veux dire, un voleur de colis Amazon va se faire pogner en 5 minutes puis afficher partout sur le babillard du dépanneur ou encore sur les réseaux sociaux.
Le petit gars du Saguenay qui était disparu, David. David, quelque chose, pas de vin, ça se peut-tu?
Hey, là, tu me coinces, pas de vin.
Mais il y avait un petit gars du Saguenay qui était disparu. Je me souviens encore de son visage, mais son nom, je l'ai perdu. Il me semble que c'est ça, David, pas de vin. Lui, ses parents étaient dans une. Témoin de Jéhovah. Il y avait peut-être des petites problématiques au niveau de la famille, au niveau de l'entente entre le fils et son père. Parce qu'il y a...
Fortin, ça se peut-tu?
David Fortin.
2009?
Oui, exact. Okay. Fait que lui, on ne l'a toujours pas retrouvé.
C'est un adolescent. Il avait 15 ans. Ça se peut-tu?
Oui. La fille de Québec qui a été vue Marilyn Bergeron. Marilyn Bergeron. On n'a toujours pas retrouvé Marilyn Bergeron.
Elle avait été vue dans un guichet automatique. Ouais. Puis on a failli avoir une autre histoire. Finalement, c'est quand même un drame épouvantable. Là, mais le jeune homme qu'on a cherché pendant des semaines et des semaines, qui sortait d'un bar, qu'on avait retrouvé son cellulaire, finalement, il est tombé entre deux murs du côté de la ville de Québec. Mm-hmm. Il était dans un endroit exigu, puis il n'avait jamais été capable de sortir, puis ça a pris du temps avant qu'on le retrouve. Mais c'est-tu ça qui est arrivé à certains?
Celui-là qui était entre deux murs?
Oui.
C'est-tu le jeune coureur? C'est un jeune athlète?
Non, c'était un...
Parce que moi, j'avais en tête un gars, il y a de ça quelques années, c'est un athlète, puis il s'entraînait proche de l'église, tu sais, dans le secteur de Sillery, là, que tu vois quand tu es sur Champlain, là, il y a une église là, qui trône là, à Sillery. Bon, ben lui, il était sur le terrain juste à côté, puis il faisait noir, puis malheureusement, il a pris une débarque dans la falaise, puis il est tombé en bas. Puis les déneigeurs, eux autres, avec le remblai de neige, ils ont constamment repoussé le corps, puis il a été retrouvé plusieurs jours plus tard.
Je m'en serais jamais rappelé. C'est rare, mon Dieu, qu'une histoire va pas... Non, c'est Jesse Duchesneau, moi, dont je te parlais. Tu sais, c'est récent, là. Il avait 19 ans, il avait été vu pour la dernière fois dans le quartier Saint-Roch.
Ah oui, oui. OK, oui.
Ce jeune-là, oui. Là. Mais tu sais, y a-tu des disparitions qui ne sont pas criminelles humaines qu'on n'a pas idée qui sont arrivés. Puis là, finalement, écoute, c'est particulier qu'on soit capable d'aller si loin dans des recherches. Puis si ça t'arrive, là, toi, là, hey, mon Dieu, je ne veux pas dire ça. Je veux pas... Admettons, peu importe, là, ça... parce que je veux pas attirer le malheur, je déteste ça, j'ai pas de superstition, mais ça, j'aime pas ça. Mais mettons là, que ça arrivait qu'on perde un de nos proches, OK? Disparition. Ouais. Virer fou de même, là. Il n'y a pas grand scénario dans lequel je pourrais virer complètement.
Ça te prend le corps, sinon t'as pas de deuil.
Eh non, mais je fais une enquête, là. Ouais.
Ça te prend le corps, sinon t'as pas de deuil pantoute.
Il y a la mère d'un de mes amis qui a disparu il y a quelques années. Un ami du secondaire, OK?
Il a-tu été retrouvé?
Jamais retrouvé. Sa mère. C'était un gars, tu sais, ma gang du secondaire, vraiment, vraiment proche. Là. J'en vois ce gars-là, puis c'est comme si c'est hier, même si ça fait des années qu'on s'est pas tenus ensemble. J'étais au PEI, pour aller à l'étude internationale, on était soudés de même. Je m'en vais au cégep après le secondaire. Je reviens travailler à Québec l'été. Je parle à une de mes amies, tu sais pas ce qui s'est passé. La mère de X est jamais revenue à la maison, ça fait 2 semaines qu'elle cherche. Elle est partie, elle a laissé ses cartes sur le comptoir. Jamais, jamais retrouvée. Une des images, tu sais, je veux dire, c'est pas ne pas avoir de réponse, ça doit être une des choses les plus exigeantes mentalement, physiquement même, de toute ta vie, surtout s'il y a quelque chose de criminellement impliqué. Mais moi, je me rappelle au funérailles de la mère d'un autre de nos amis, cet ami-là était là, et la façon dont il a réagi au funérailles, on dirait Yannick qui vivait le deuil de sa propre mère. Parce qu'il n'y a jamais eu de réponse à ses questions. Il n'y a jamais eu de lettre. Il n'y a jamais eu rien. Juste disparu. On n'a jamais compris pourquoi. Toujours à la recherche, mais tu sais, est-ce que l'enquête est active? Sûrement
pas. Ça existe-tu encore de disparaître en 2025 puis on n'est pas capable de retrouver la personne?
Ben, je sais pas, mais tu sais, ça date pas de...
T'sais, ça
te de prend
un
20
passeport.
Ans, là.
Tu veux changer de pays, ça prend un passeport. À moins que tu passes par cette fameuse bibliothèque qu'on parlait avec Denis.
Faudrait parler à Paul Mukendie, en tout cas. Il était capable de s'éclipser.
Ouais, lui, j'ai regardé. Ouais, j'avais pas vu le documentaire. J'ai regardé le reportage qui était fait sur sa fuite. Puis il a pris le passeport de son frère. Puis il est passé à Toronto.
Moi, je suis plus capable de cet homme-là, je vais te dire, là. Je suis plus capable, mais je me régale quand même de tout ce qui se passe parce que je trouve ça ahurissant, là.
Ouais. Mais à Toronto, il y a tellement de gens qui passent.
Mais comment, tu sais?
Le douanier te regarde, il regarde la photo, vous avez à peu près les mêmes traits, ça doit être toi, là.
Mais ça, c'est particulier qu'on soit capable. Ça veut dire que je pourrais voyager avec le passeport de ma sœur, là.
Si vous vous ressemblez.
Ah non, mais je veux dire, je pourrais voyager avec le passeport de ma sœur, ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des jumeaux, là.
Ben oui.
Mais ça marche pas.
Ben, ils prennent pas tes empreintes digitales. Quoi que les jumeaux, ils ont-tu les mêmes empreintes digitales?
Mais non, normalement. Normalement, c'est pas supposé.
C'est pas supposé?
Non. Parce que là, imagine, t'en as un criminel sur deux. Là, l'autre, il se garde pas à peu près, s'il taillit. C'est pour vrai. Sauf que s'il est capable de passer au doigt... Moi, ça me fascine.
Ouais.
C'est pas normal.
Non.
Il devrait y avoir un genre de système de reconnaissance faciale.
Ouais. À Québec, là, tu dois mettre ton passeport dans une petite machine. Puis après ça, ils te prennent une photo de ton visage pour comparer le visage par rapport au passeport.
À Québec, à l'aéroport?
À Québec. Fait que je sais pas si à Toronto, quand tu décolles, c'est la même affaire.
Mais ça je sais pas,
parce
mais ça
Québec,
devrait.
À Québec, quand tu reviens, c'est ça. Là, t'as la fameuse prise de photo, puis t'as la lecture de ton passeport.
Rendu là, je vais te prêter une perruque blonde, Yannick, tu passeras avec mon passeport. Ouais. Non, mais c'est des choses qu'on pense qui sont tellement
strictes. J'ai un plus
beau
nez que le tien. Ça pourrait...
je suis pas sûr, faudrait faire un quiz. Mais la dernière affaire qui est arrivée à Québec, là, puis je finis là-dessus à l'aéroport, là, c'est... Moi, je l'avais vécu à New York, c'était arrivé dans les dernières années. Maintenant, t'as plus besoin de sortir tes cossins, tes crèmes, tes liquides, tes ci, tes ça, tes ordinateurs sont rendus. Puis je l'ai vécu là, quand je suis partie dans le Nord, aux douanes, quand ils te fouillent, en fait.
Mm-hmm.
Tu mets ça, c'est comme une grosse bulle blanche. Vous allez voir, tout le monde est mêlé. Faut pas chercher mes crèmes, faut pas chercher mes ordinateurs. Non. Quand tu as accès à cette ligne-là, il y en a juste un appareil du type à Québec maintenant, tu fais juste passer ton bagage, t'as plus rien à sortir. C'est tellement extraordinaire et c'est assez technologique pour aller faire une fouille complète.
Ah, oh, oui. Mm? Wow. Hey, c'est moins 1 degré sur Québec. Il neige à plein ciel. Le printemps, ça va être mis à peut-être plus tard. Accumulation de neige 2 cm pour aujourd'hui, maximum de plus 4 degrés. Ce soir, c'est nuageux. Possibilité d'averses de neige ou de pluie, nous mentionne-t-on, un minimum de plus 1 degré. Pour ce qui est de mercredi, des averses de neige, accumulation de neige de 2 cm pour ce qui est de demain, maximum de plus 3 degrés. Jeudi, une belle journée ensoleillée, maximum de plus 4. Vendredi, de la neige, maximum de moins 1. Ici, je vais plus loin pour la fin de semaine. Ensoleillé pour samedi, maximum de 0. Et dimanche, la neige intermittente, maximum de 0. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Audrey est absente. C'est Pascal CV qui la remplace. Dans les prochaines minutes, on va jaser avec l'excellent Doc Boucher, l'ami des petits gros. Je vous envoie dans vos oreilles Caravane. Wow Minute. Et ensuite, ce sera les news avec Max. Audrey qui est absente aujourd'hui, elle sera de retour demain. C'est Pascal CV qui la remplace. Avec brio, dois-je dire. J'ai-tu quelque chose à te demander? Ou...
Ben c'est ça que j'ai... Pardon?
Je viens de voir
tu sais que c'est à moi
yeux.
Que tu parles. Hein?
J'ai dit très rarement des compliments. On va sentir qu'il y a une arnaque quelque part.
Très rarement, oui, étant presque jamais.
Ouais. T'as-tu, est-ce que tu connais le docteur Denis Boucher?
Oui, mais quand tu dis Doc Boucher.
Doc Boucher, docteur en médecine expérimentale, il est avec nous aujourd'hui. Je te le présente à l'instant. Salut, Doc!
Hey, salut! Salut, Pascal!
Salut!
Doc Boucher, c'est le spécialiste des petits gros.
Ça, à chaque fois que tu disais ça, ça m'insultait.
Oui, oui je sais.
J'étais comme, il dirait ben, tout ça, lui.
Tom qui était Tom
c'est
qui
c'est
était
le plus
avec...
beau titre que je peux pas avoir.
Exact. Tom qui travaillait avec nous autres avant. Même Élodie. Le pire, c'est quand j'avais Élodie et Tom. Puis là, je disais, ce soir, je parle avec Doc Boucher, le spécialiste des petits gros. Les deux s'enfonçaient sur leur chaise.
Je comprends.
Ils voulaient s'en
si j'avais
aller
été là, je ferais la même chose.
Ben oui, mais je veux dire, ils les aiment, les petits gros. C'est avec eux qui gagnent leur vie. Comment ça va, Doc? On est content de te voir.
Hey, je suis en pleine forme, Yannick, sincèrement. Là, je pète le feu. Je vais avoir 61 ans à la fin du mois d'avril. Là.
Ouais.
Je me sens comme un jeune homme de 30 ans.
Et ça, c'est dû à quoi? Ça? Comment t'as fait pour te rendre jusque-là? Là?
Ben, écoute, c'est assez simple, la vie. Hein? Une alimentation équilibrée, de l'entraînement régulier. Donc, moi, je suis en gym 2 fois 2 heures par semaine. 1h30 de jiu-jitsu par semaine pour maintenir la mobilité.
Du jiu-jitsu?
La mobilité ou la coordination. Ouais, exactement.
Ça, c'est intense, là.
Ouais, c'est intense. Ce qui fait que pour... mesdames, calmez-vous. Là, je voulais vous dire que je suis marié, là. Mais pour 61 ans, j'ai un corps de rêve.
Ah non, un autre Yannick.
On le compare souvent à Brad Pitt.
Oui. Hey, Yannick, tu sais, vous parliez de sexe tantôt. Je peux-tu te faire une confidence
sexuelle?
De sexe? Sexuelle?
On n'a pas parlé de sexe.
Ouais. Tu veux me faire une confidence? Non? Ben oui, vas-y.
Ben oui, juste avant, là, à quelques minutes avant que je rentre en onde, là.
Oui.
Vous parliez de ça.
Oui.
Non, mais c'est que moi, après avoir fait l'amour, j'aime beaucoup parler à ma femme. Fait que je prends le téléphone puis je l'appelle.
Dans quel bourbier on m'a mis ce matin?
Ça commence de même. Hey, Doc, parlons.
Excuse-moi, Yannick.
J'ai parlé avec Pascal tantôt, puis je disais que j'avais écouté un podcast de Doc Boucher, puis j'avais braillé de rire parce que je connais ton opinion sur les fameux régimes, les régimes de ci, les régimes de ça, les modes qui passent, les régimes cétogènes. Puis dans un podcast, tu jasais avec une dame qui gagne sa vie en produisant des régimes cétogènes et tout ça. Puis là, elle te dit, ben moi, j'ai mon régime cétogène, puis là, en plus, je fais du jeûne intermittent, puis des fois, j'arrête de manger pendant 18 heures, pendant 36 heures, je suis full en forme. Et là, toi, t'es revenu en disant, mais quelle vie de merde! Pourquoi t'en es rendu là quand t'entends parler des régimes? Pourquoi tu deviens fou comme ça?
Ben, écoute, Yannick, ça fait des décennies qu'on a des recherches qui démontrent que des diètes normales, comme la diète méditerranéenne, de l'entraînement régulier d'intensité légère à modérée, te permet d'avoir une longévité exceptionnelle, de maintenir une masse musculaire qui a de l'allure, d'être en santé, d'avoir un profil métabolique qui a du sens. Et au lieu de manger, ta meilleure idée dans la vie, toi, c'est parce que tu as entendu quelqu'un qui jeûnait, puis là, qui croit que le jeûne 18 quelque chose ou 24-36, ou tu sais, donne-là les noms que tu voudras, lui, il tripe, là. Fait que lui, sa meilleure idée dans la vie, c'est de ne pas manger.
Mais il y a des gens en santé qui jeûnent même. Est-ce que tu as l'impression que c'est juste à cause de leurs horaires et qu'ils n'ont pas le choix?
Bon, il y en a, c'est pour leurs horaires, mais il y en a qui jeûnent volontairement.
Ben oui.
Mais c'est parce que là, on leur promet une longévité exceptionnelle. On leur promet une prévention du cancer, qu'ils n'auront pas de cancer, qu'ils ne vieilliront pas. Et je me suis pogné avec un chercheur récemment qui voulait me faire jeûner. J'ai dit, écoute, mon épée, tu ne me feras jamais jeûner. Puis j'ai dit, regarde-toi là. T'es un petit papère de 50 ans, Beden, t'as les cheveux grisonnants, tu perds tes cheveux, t'as l'air d'un petit papère de 65 et tu me fais croire que ce que tu fais, ça va te permettre de vivre vieux. T'sais, quand les gens vous promettent des affaires comme ça, regardez qui vous le promet.
C'est-tu comme un cuisinier
regardez
qui est
son
mince?
Allure. Comment t'as dit?
C'est comme un cuisinier qui est mince.
Ben, écoute, j'ai déjà rencontré le cuisinier de l'ancien cuisinier du Château Frontenac, je me souviens plus son nom.
Jean
Soulard. Il courait des marathons, il était triathlète, il était super mince.
Oui, Mais la joke, c'est qu'il ne faut pas leur faire confiance. Mais honnêtement, ben, il y a des gens en santé qui y croient. Ça veut-tu dire que selon les études, selon les recherches, ben, il manque un peu de super études du genre « met tout en commun puis on est capable de voir à la fin si ça fonctionne ou pas » ou encore c'est vraiment une question de croyance?
C'est une question de croyance. T'as des études. OK, Pascal, je vais revenir à une affaire. C'est quoi, restons dans le jeûne, OK? C'est quoi le mécanisme d'efficacité derrière le jeûne? C'est quoi le mécanisme de fonctionnement du jeûne intermittent?
Ralentir tout le monde ton métabolisme?
Tout le monde pense que c'est le jeûne. Ben non, c'est la restriction calorique. C'est que tu étais un gros cochon avant, tu mangeais comme un porc, et là, tu as trouvé un moyen de contrôler ta bouffe. OK? Fait que là, toi, t'es fier parce que t'as appelé ça le jeûne intermittent. OK? Mais fuck! C'est pas le jeûne, le mécanisme d'efficacité. C'est le fait que t'es juste moins cochon.
Ouais, puis ton corps, il va chercher ce qu'il y a de besoin dans tes réserves d'énergie. Là.
Ben, c'est ça. Et là, il y a des gens assez stupides au lieu de se dire « Hey, je vais être en équilibre. Je vais fournir à mon métabolisme l'équilibre dont il a besoin, c'est-à-dire le juste apport en calories, protéines, lipides et glucides, pour vivre une vie équilibrée, manger 3 repas par jour avec des collations. » Non! Ils se privent de nourriture et ils croient eux autres qu'ils ont trouvé l'inspiration divine. Moi, regarde comment je suis exceptionnel. Je jeûne. Je connais quelque chose que toi, tu connais pas. Ça, c'est de la religion. Quand vous entendez ça, vous vous sauvez en courant et vous les envoyez promener. Tu sais, ça n'a aucune logique. Puis dans mes discussions avec ces gens-là, qui là sont rendus, veulent réduire l'apport en protéines parce que il y a supposément un effet de prévention de cancer parce qu'il y a un acide aminé qui est la méthionine qui contribuerait à la progression des cellules cancéreuses. Bien, si tu diminues l'apport en protéines, quand tu arrives à 70 ans, OK, ça c'est démontré scientifiquement, c'est que tu commences à perdre ta masse musculaire beaucoup plus rapidement. Et si tu n'as pas un apport en protéines suffisant et que tu ne fais pas d'exercice, tu vas te dégrader. Ce qui fait que dans pas grand temps, tu vas te mâcher les gencives dans une chaise roulante. Puis il y a quelqu'un qui va te torcher à ta place. Et ça, tu ne veux pas ça. Alors, mange normalement, fais de l'exercice de façon régulière, arrête de croire aux choses miracles qui vont transformer ta vie. Ça te prend un équilibre de vie. C'est la base simple.
Doc, ça te fâche-tu parce que tu vois et t'entrevois les conséquences de tout ça à plus long terme, autant sur le réseau de la santé que sur la santé d'une personne?
Bien, je le vois sur la santé d'une personne. Ça fait 30 ans que je fais ça, Pascal. J'en ai vu des gens là, sur des jeûnes intermittents, à moitié morts, épuisés, développer des problèmes de santé, glandes thyroïdes, puis tu es obligé de leur dire, bien, écoute, mon imbécile, faudrait que tu penses que ton corps fonctionne à l'énergie chimique. Puis pour avoir de l'énergie chimique, il faut que tu manges. Bien, ça, c'est une base normale de la vie. Mais on a tellement rentré dans la tête aux gens qu'il y a des aliments qui sont démoniaques, qu'il ne faut pas manger, il faut se priver à l'extrême. Et là, que le jeûne intermittent qui veut rien dire ou le jeûne total, tu sais, que ça fonctionne, que ça a des valeurs miracles, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que je ferais ces conneries-là quand des décennies de recherche démontrent que l'équilibre de vie, une alimentation saine avec une bonne qualité alimentaire, avec une quantité juste et de l'exercice régulier, te procure tous les bénéfices dont tu as besoin. Allez pas faire de conneries, s'il vous plaît.
Doc, j'ai de la misère à faire mon épicerie parce que, bon, je jase régulièrement avec toi, je jase régulièrement avec des diététiciennes qui viennent à l'antenne. On me mentionne constamment d'essayer de prendre la nourriture qui est le moins modifiée possible. C'est dur de trouver ça à l'épicerie. Là.
Ben écoute,
c'est toute la nourriture qui est transformée la plupart du temps.
Ben oui, mais tu sais, regarde, souvent dans une épicerie, là, les seuls coins où ça va bien, là, c'est les fruits, les légumes, tu as le comptoir des poissons, des viandes, OK? Fait que ça va assez bien, mais tout le reste, à peu près, c'est quelque chose de transformé. Les produits laitiers qui ont de l'allure, mais tout le reste, c'est transformé. Donc, ce que tu fais, c'est que, écoute, j'en mange des produits transformés, puis je m'inquiète pas avec ça, c'est juste que je fais attention. Tu sais, j'aime ça, moi, manger des biscuits. Mais tu comprends que je ne mangerai pas 12 biscuits à la fin d'un repas. Je vais en prendre un ou je vais en prendre 2 petits, puis ça rentre dans mes calories, puis c'est bien correct, c'est réglé. C'est pas le problème, c'est pas tant des aliments comme tels que le surdosage que les gens en font. Les gens se tournent à bouffer de la merde à tout le temps sans réfléchir. Mais quand tu te mets à inclure des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des fruits de mer, produits laitiers dans ton alimentation, ben écoute, tu te retrouves puis avec une alimentation qui a bien de l'allure, là, qui est suffisamment saine.
Doc, je voulais te poser une question, d'une collègue de travail. Entraînement et cycle menstruel, est-ce qu'il peut y avoir un lien?
Dans le sens de?
Est-ce que le cycle menstruel peut jouer dans l'entraînement?
Ben, si tu es plus fatigué, si tu as des problèmes différents, tu t'entraînes juste moins fort.
Exact.
Parce que ton corps il est en demande énergétique supplémentaire dans cette partie du cycle menstruel. Donc, tu capotes moins, tu rushes moins à l'exercice.
Tu fais plus de façon technique, là.
Tu veux dire de façon technique?
Ben, j'ai Annie qui dit pour une collègue, mais c'est parce que je m'entraîne pour aller monter le Kilimanjaro, puis j'ai un entraîneur personnel. C'est un personnage, on l'appelle Ravière, parce qu'il s'appelle Ravière, mais c'est un Colombien, puis il trippe sur la façon... de s'entraîner qui est vraiment technique, qui est vraiment travaillé, qui est recherché, qui... Puis à un moment donné, il m'accoste puis il me dit tout simplement comme ça, « Ah, en passant, tu me parleras de ton cycle menstruel. » Pardon?
Ben,
puis il dit « Parce qu'on va s'adapter. »
Pascal, tu viens de me dire tout quelque chose qui veut tout dire, mais rien dire. Là. Je m'entraîne technique. Sais-tu, tu vas monter le Kilimanjaro, là. Est-ce qu'il t'a enseigné à gérer ta fréquence cardiaque en fonction du fait qu'en altitude... tu vas avoir moins d'oxygène présent puis que ton corps va réagir différemment.
On n'est pas rendu là,
oui,
quand même, tu peux rien faire, tu sais.
Ah, c'est faux! C'est faux! J'ai entraîné plein de gens qui sont allés en altitude et je leur ai expliqué qu'en fonction de l'altitude, le pourcentage d'augmentation des fréquences cardiaques qu'il va y avoir, ce qui fait que quand ces gens partaient, ils partaient en montagne avec une gang de clowns qui, eux autres, voulaient monter ça le plus vite possible, lui, qu'est-ce qu'il faisait quand il voyait sa fréquence cardiaque monter? Il a ralentissé pour la maintenir dans la zone que je lui ai dit de la maintenir. Ce qui fait que s'il arrive les premiers en haut, ces gars-là. Tu comprends? Fait que oui, t'as beau t'entraîner de technique, mais si t'as pas cette notion de gestion de dépenses énergétiques, dans le contexte où tu vas être, qui est un contexte d'altitude, ton entraînement va donner zéro.
Mais ça, c'est super intéressant, puis c'est vrai, ils m'en ont parlé dès le début, parce que c'est beaucoup d'endurance, beaucoup de core, fait que c'est pas nécessairement en puissance. Mais pour revenir au cycle menstruel, ça m'a fascinée, je suis allée chercher, puis c'est vrai, par rapport à la technique, quand on est dans notre semaine, admettons, les femmes, on va être capable de moins pousser qu'à l'habitude, puis ça sera pas une... on sera pas en dégringolement de notre entraînement, c'est vraiment effectivement la gestion de notre corps qui est différente dans cette semaine-là.
Y avait-tu un chapitre, un chapitre sur la patience?
Non, mais ça va avec, honnêtement. Okay. Il y a vraiment quelque chose.
Mais tu sais, Pascal, la manière dont moi je gère, là, quand j'évalue les gens puis je leur donne leur zone de fréquence cardiaque où ils utilisent différentes réserves énergétiques et que je leur dis, je te donne un exemple, mettons, je t'évalue, je te dis, Pascal, moi, je veux pas que tu dépasses 140 battements par minute. Quand tu vas arriver dans ton cycle menstruel, ben ce qui va arriver, c'est que pour maintenir 140 en bas de 140 de battements minute, tu vas devoir en faire moins. Fait que c'est juste de comprendre cette dimension-là. C'est la même chose que si tu prends un gros repas puis tu vas t'entraîner à 30 degrés Celsius dehors, bien, tu as juste 5 litres de sang dans ton corps. Fait que ton corps, il doit envoyer du sang à l'estomac pour digérer, du sang à ta peau pour transpirer puis évacuer la chaleur, puis du sang à tes muscles pour produire de l'énergie. Tu es en compétition. Donc, si tu n'es pas capable de respecter tes zones de fréquence cardiaque et comprendre qu'à certains moments dans ta vie, tu vas produire moins de travail pour la même fréquence cardiaque, c'est là que tu as un problème parce que les gens veulent pousser toujours plus et c'est là qu'ils s'épuisent. Fait qu'il y a toute cette notion-là d'intelligence à l'entraînement qui va beaucoup plus loin pour moi, mais qui est malheureusement sous-employée.
Un cas typique comme Pascal, bon, jeune trentenaire, c'est une femme, ça y prend combien de calories par jour normalement en moyenne?
Ben, Pascal, on va y aller dans les questions indiscrètes. Tu mesures combien, tu pèses combien?
Oh boy!
5 et 7, puis c'est pas de tes affaires.
Ben, écoute...
Ben, je dirais 5 et 7. 130.
OK, bon, ben, ça veut dire je suis au pifomètre, là, Pascal. Là. Mm-hmm. Ça veut dire que ça te prend quelque part entre 1550 et 1650 calories de base.
C'est combien de sacs de chips par jour?
Ouais, ben écoute, d'après moi, un sac de chips, c'est 700 calories un gros, puis t'as le droit à deux.
Bonne alimentation, certes.
Mais pour chaque individu, ouais, t'es capable de connaître à peu près son besoin calorique par jour avec les outils que tu utilises dans ton entreprise.
Oui.
OK. Puis ça,
ah
oui, ça fonctionne
ça,
comment?
Ça varie.
C'est quoi ces outils-là?
Écoute, ça, c'est moi qui les ai développés. C'est que j'ai travaillé en laboratoire pendant 20 ans de ma vie. OK? Fait que c'est des appareils qui mesurent le métabolisme. Moi, en arrière de ça, pour analyser le métabolisme, donc ça analyse la consommation d'oxygène, expiration de CO2, tout ça est transformé en chiffres. En arrière de ça, c'est toutes des formules mathématiques. Fait que moi, étant un petit peu obsédé puis trippant dans mon travail, je suis allé tout extirper les formules mathématiques. Et au fil des années, je me suis demandé, OK, comment je pourrais les appliquer dans un algorithme qui ferait que je n'aurais pas besoin de faire de tests de métabolisme de base pour avoir une bonne réponse. Et finalement, j'y suis arrivé. Fait que ce qui va arriver, c'est que tu vas remplir un questionnaire avec des... Tu vas me parler de tes variables, ta qualité de sommeil, ton niveau de stress, ta grandeur, ton poids, ton âge et tout ça. Et mon algorithme va tenir compte de tous ces facteurs. C'est comme une intelligence artificielle. Puis il va dire, ben toi, Yannick, c'est temps. Toi, Pascal, c'est temps.
OK. Puis à partir de ce moment-là, on travaille, si on veut perdre un peu de poids, là, on travaille justement avec nos calories.
Oh, oui, exact. Ben oui, parce que moi, je suis un gars de données. Tu sais, parle-moi pas d'alimentation intuitive ou de jeûne où tu sais pas de quoi tu manges, la quantité que tu manges. C'est, on va calculer, tu vas prendre un journal alimentaire, tu vas calculer ton apport en calories, protéines, lipides, glucides, parce que moi, je te l'ai suggéré. Et c'est là qu'à partir de ton alimentation quotidienne, avec une stratégie que je te propose, ben c'est comment tu vas arriver à rencontrer ces objectifs-là. Et tu as un test qui va se faire, qui est un test de marche, qui me permet de déterminer ta condition physique. Fait que là, j'ai ton profil métabolique du repos jusqu'à l'exercice. Mmh. Et je suis capable de dire, si tu t'entraînes beaucoup, ben à l'exercice, tu dépenses tant de calories minutes. Ça veut dire qu'il faudrait que tu manges davantage.
Il y a des questions par texto, Doc. Oui. La première, vous avez parlé d'altitude. Il y a quelqu'un qui dit, OK, parfait pour les battements cardiaques et autres. J'ai l'impression que, tu sais, là, le printemps s'en vient, l'été s'en vient. Les gens aiment ça, aller au Mont des Morios, des affaires comme ça, aller se promener dehors. Puis, ils se posent la question, mais comment est-ce que tu t'entraînes pour l'altitude? Est-ce qu'il y a une façon de faire particulière?
Bien, qu'est-ce que tu t'entraînes pour l'altitude? C'est assez simple. C'est comme, on est au niveau de l'océan, OK? On est au niveau de la mer ici à Québec à peu près, là. Bon, ben, ce que je vais faire, moi, c'est assez simple. C'est que je vais faire un test de VO2 max. Un coup que j'ai ça, j'ai ton niveau de condition physique. Je suis capable d'identifier ta condition physique, tes différentes zones physiologiques d'utilisation d'énergie. Puis je vais te dire, comme tu t'en vas en altitude, je te donne un exemple, Pascal, mettons, je te teste. Comme tu t'en vas en altitude, Pascal, écoute, ton VO2 max, il est relativement correct, mais il te manque d'endurance. Fait qu'on va travailler sur l'endurance. Et là, avant que tu partes, je vais te retester. Ben là, je vais te dire, Pascal, ta zone d'endurance est passée de, mettons, de 135 battements minute à 145 battements minute. Ça veut dire que tout ce qui est en bas de 145 battements minute, tu brûles des lipides, tu brûles du gras. Ça veut dire que tu as de l'énergie pour durer indéfiniment. Donc, peu importe ce qui va se passer en altitude, quand ta fréquence cardiaque dépasse 145 battements par minute, ralentis. S'il faut que tu arrêtes, t'arrêtes. Et si tu retiens ça, ben tu vas clencher tout le monde.
Quelqu'un
c'est comme
qui nous,
ça qu'on fait ça.
Quelqu'un qui nous parle des protéines, il y a comme des modes, puis il y a quelqu'un qui a peur que ça en soit une en ce moment, de manger le nombre de protéines selon le nombre de livres que tu as. Est-ce que c'est vrai, ça, Doc Bouger?
Ben écoute, tout dépend. C'est parce que moi, je ne le calcule pas de même. Je le calcule en fonction de la masse maigre. Donc, de ton pourcentage de gras, je vais définir ta masse musculaire, puis c'est là que je le détermine. Donc, ils disent normalement, c'est 1 kg de protéines, entre 0,8 kg kilo de protéines, à 1 par kilogramme de poids. Mais tu sais, si tu es obèse et tu pèses 90 kilos, tu mesures 4 pieds 8, on s'entend que je ne te donnerai pas 90 grammes de protéines par jour. Là. Donc, c'est fonction d'autres facteurs aussi. Fait que tout ça reste très général, puis c'est pour ça que les gens s'y perdent à un moment donné.
Doc Boucher, que penses-tu des suppléments d'entraînement comme les protéines, comme la créatine, comme...
Les fat burners.
Les brûleurs de gras, ouais.
Bon, les brûleurs de gras, ça n'existe pas. OK, oubliez ça, là. C'est pas vrai.
Ça sert à quoi? Si c'est juste de la caféine, finalement?
Ouais, je sais pas, peut-être juste la caféine. Parce que si quelque chose que tu prenais rentrait dans ton corps et brûlait le gras que tu as dans tes cellules adipeuses, là... La compagnie qui aurait fait ça serait multimilliardaire. Les Ozempic de ce monde, les Wegovy, feraient faillite. OK? Maintenant, outre ça, ben, comment c'est à quoi le reste de ta question?
La whey, la protéine, exemple.
Oui, bien écoute, c'est toujours, moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que les gens, c'est une question de surdosage. Je jasais avec des jeunes récemment qui ont commencé l'entraînement musculaire, puis là, eux autres, ils prennent la créatine à tous les jours. Bien, j'ai dit non, tu ne prends pas de la créatine à tous les jours parce que tes cellules musculaires sont capables de stocker une quantité maximale de créatine. Ce qui veut dire que si tu prends en excès, tu vas le vider dans tes urines, tout simplement. Il va se ramasser dans la toilette, ça fait que tu perds du temps.
Et de l'argent.
Il y a des protocoles, okay. Il y a des protocoles de tu prends pendant 2 jours, tu prends 1 semaine de break, 3 jours, 1 semaine de break, 2 jours, et ainsi de suite. Fait que là, tu arrives avec un protocole correct de créatine. Même chose avec les protéines, Yannick. Les protéines, ton corps est capable de gérer à peu près 30 grammes de protéines dans un espace de 2h30, 3h. Si tu prends 2 scoops de protéines, tu es rendu à 60 grammes, bien, ce qui va arriver, c'est que tu vas en stocker en gras puis tu vas en éliminer dans les urines. Donc, moi, je n'ai rien contre ces affaires-là. C'est juste cette notion de surdosage qu'on te propose puis que les gens capotent là-dessus parce qu'ils veulent des résultats quasi miraculeux. Quand tout ça... Si tu le prends, mais tu ne t'entraînes pas et que tu n'as pas une alimentation équilibrée, ça donne zéro.
Henry Cavill, qui est le gars qui a fait le film Superman, mentionnait que le soir, avant de se coucher, il prenait de la protéine pour dormir. On en a souvent jasé, toi et moi. Tu avais comme un avis ambivalent là-dessus en disant « mais ça dépend, s'il y avait eu le nombre de protéines idéales pour sa journée, il n'en avait pas de besoin, mais si il est en surplus de protéines, là, ça va se transformer en gras à long terme. »
C'est mêlant.
Pourquoi lui dit...
Ouais. Non, ben...
Pourquoi lui dit la protéine, c'est quelque chose qui a fait en sorte que j'ai grossi très rapidement?
Ben, écoute, OK, vois-y à carrure, il y a peut-être un petit peu de stéroïde à travers, OK?
Ah, OK.
Je comprends. Là, à un moment donné, il faut arrêter de prendre de niaiseux. Là. Regarde les acteurs qui sont jackés, là.
Ouais.
Écoute, il y en a beaucoup, c'est facile à spotter. Stéroïdes, hormones de croissance.
Wow, Brad Pitt n'est pas ses stéroïdes.
Non, Brad Pitt, il est cut. Brad Pitt, il est cut.
C'est vrai, ça, c'est vrai. Brad Pitt, c'est vrai.
Il y a peut-être un peu de stéroïdes au travers.
Écoute, c'est ça. Mais il y a une chose qui est vraie, par contre, Yannick, c'est que si dans tes protéines, mettons, je te dis que tu as, 120 grammes de protéines à prendre dans ta journée, il est vrai que si tu le prends une heure, une quantité de 30 grammes avant de te coucher, tu risques d'avoir une efficacité meilleure dans l'absorption et la construction de ta masse musculaire.
OK.
Mais tu comprends que c'est une question de contexte. Là. On parle de recherches précises, encadrées, de gens encadrés. Et là, il y a quelqu'un quelque part qui dit « ben fais ça, tu vas avoir des résultats. » Ouais, mais c'est parce que ça ne veut pas dire que tu es dans le même contexte que la recherche. Tu sais, il y a toute une notion de contexte où il faut que tu partes de c'est quoi le niveau de condition physique de la personne, c'est quoi ses besoins en calories, protéines, lipides, glucides. Un coup, j'ai ce contexte-là, je vais construire. Mais les gens n'ont jamais ce contexte-là. Ils vont sur des croyances. « Ah, je vais prendre beaucoup de protéines, ça va m'aider. Ah, je vais prendre de la créatine, ça va m'aider. Ah, je vais prendre des brûleurs de gras, ça va m'aider. » Oui, mais écoute, Jean-Claude, t'es même pas parti de la base, là. T'es même pas parti de la nutrition puis un entraînement qui a de l'allure. Puis tu veux faire des miracles.
Ouais.
C'est ça qui a pas de sens dans notre monde moderne.
Ouais.
Il y a des gens qui sont intimidés par le fait qu'ils ont bougé beaucoup dans leur vie, qui étaient, bon, à certaines capacités à un moment, puis il y a eu un creux de vague, travaillaient beaucoup ou autre, puis ont perdu ces capacités-là. Puis du jour au lendemain, ils sont un peu découragés de recommencer. Il va falloir qu'ils recommencent à la base puis qu'ils acceptent que c'est comme ça que ça se passe. Il y a quelqu'un qui nous écrit, là, il y a 59 ans... quelqu'un très, très actif avec un métier très, très actif auparavant, mais c'est ça. Ça fait, il dit 5 ans environ là, qu'il ne s'est pas entraîné de la manière qu'il le faisait, puis ça l'intimide.
Bien, écoute, dis-toi une chose, c'est que tu as une mémoire musculaire qui s'est créée. Quand tu vas te remettre à l'entraînement, tu vas avoir des résultats rapides, mais pars tranquillement.
Fait que c'est l'ego, l'orgueil qu'il ne faut pas qu'il gère.
Ben, oui. Surtout 55 ans. Les gars, c'est ça le plus gros problème, l'orgueil.
Ouais. Mais tu m'avais dit aussi juste de se mettre en mouvement, là. Commencer à marcher, puis après ça, vous allez peut-être être capable de courir, mais commencer à bouger d'abord et avant tout.
Le ferais-tu, toi, Yannick, commencer à marcher ou ça te gênerait? J'ai l'impression que ça te gênerait, toi.
Ben moi, je marche.
Ah oui, mais pas pour aller au bureau, là.
Non, mais au gym, je marche, je cours pas. Je
sur
cours,
le tapis,
je cours avec hockey, je cours au hockey, mais quand je vais au gym, je marche. C'est le Doc Boucher qui m'a donné ce truc-là.
Puis tu le respectes.
Je brûle
parce que tu
le même nombre de calories. Si, mettons, je fais 50 km de course ou 50 km de marche, je brûle le même nombre de calories selon ce que tu m'as dit, Doc, c'est ça?
Ben oui, exactement.
Avec une petite pente.
À 30-50 calories d'écart, on s'entend ça, on vaut même pas la peine d'en parler.
On m'a dit de faire ça, mais avec une petite pente, moi, dans le tapis, puis que ça changerait tout le processus.
Bullshit.
Oh!
Ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport avec ta pente. Ça a rapport à la stimulation physiologique que tu en retires. Tu comprends comment le monde est mêlé et ils ne connaissent rien?
Ouais.
C'est ça le problème. Puis tu sais, ton autre gars de 55 ans là, qui a peur de recommencer, là, 59, bon. Mais son problème dans sa tête, c'est qu'il pense que ça y prend de l'entraînement de haute intensité pour avoir des résultats. Moi, les plus pourris, les plus médiocres que j'ai testés, c'est les gens qui s'entraînent à haute intensité tout le temps. Parce que c'est pas une stratégie, s'entraîner à haute intensité tout le temps. Ça prend des cycles d'entraînement, ça prend un programme qui est adapté en fonction de ta physiologie. Mais la plupart des clowns qui s'entraînent veulent juste faire des conneries, veulent juste s'entraîner beaucoup, veulent juste s'entraîner à haute intensité, veulent juste bien paraître et soigner leur ego.
Qu'est-ce qui fait que l'indice de masse corporelle semble de plus en plus challengé?
Ben, c'est parce que ça ne fait pas la différence entre le gras et le muscle. C'est pour ça que moi, je parle de pourcentage de gras. Tu sais, si j'ai, je prends un joueur de football de 6 et 4 qui fait 260 livres avec 10 % de gras, ben, il n'est pas obèse, mais l'indice de masse corporelle va le classifier obèse.
Alors, pourquoi on garde ça comme mesure?
Échelle de la population. Si on va faire des études à une échelle de population, c'est l'outil le plus utile qu'on a.
C'est ça, ben là, c'est une base, mais il faut que tu adaptes, là.
Ben, c'est ça. Sur un plan individuel, il faut que tu y ailles avec le pourcentage de gras.
Okay. C'est pour ça que dans certains gyms, là, il y a des entraîneurs qui vont avec des clips là, pour mesurer l'épaisseur du gras.
Ouais, il faut juste s'assurer qu'ils font bien.
T'as-tu eu ça, toi, le
non.
clip?
Non, moi, j'ai une machine qui prend un scan complet de ton corps.
OK. C'est quoi ça, Doc, cette machine-là?
Ouais, ça, c'est le body scan. Là. Ça va. C'est très. Écoute, c'est des meilleurs. Là. T'es couché sa patente, puis ça scanne des pieds à tête. Là.
Exactement.
Yes, c'est parfait.
T'en as une debout aussi, là, puis t'envoies toutes tes données. Même, c'est fascinant. Là. C'est juste un peu moins le fun quand tu vois ton pourcentage de gras, mais ça parle-toi.
Ben écoute, c'est OK, c'est encore une question comment tu interprètes ton pourcentage de gras.
Moi, je vous réponds à aucune question publiquement, Doc Boucher, sans
Pascal,
la présence de mon
quoi,
avocat, c'est non.
Quel pourcentage de gras la balance te donne?
98 %
de pourcentage
non,
de gras.
Non, c'est pas vrai, là, non, je réponds non, pas non. À ça. Pauvre moi.
Ben, Pascal, réponds-moi que je vais te faire un cadeau.
Non. Okay?
Je vais t'aider à percevoir correctement ton pourcentage de gras.
Non.
Je te dirais, Doc, pour elle, entre 25 et 30.
Yes. Si t'es à 25, t'es parfaite.
Ben là, pas si
moi, je trouvais ça beaucoup, là, 27. Là.
Non, tu te trompes. Écoute, OK, es-tu une athlète d'élite? Est-ce que tu t'entraînes 6 heures à 8 heures par jour?
Non.
OK. Si tu vas aller en bas de 24 % de gras, tu vas te tuer à tâche. À 25 % de gras, 24-25, ton corps t'a donné le maximum de ce qu'il peut te donner avec les efforts qu'il fait. Pour aller en bas de 24, ça va vouloir dire qu'il va falloir que tu augmentes et augmentes les heures d'entraînement de plus en plus fréquemment. Et là, tu n'auras plus de vie.
Il faudrait que tu manges de la soupe à la glace, mettons?
Non, il faudrait que tu manges plus. Là, je viens de te buzzer. Hein. Là, ce que je ne sais pas, c'est si tu manges assez.
Non, la réponse, c'est non.
Parce que
non,
moi, la première chose que je ferais, c'est, un, j'évaluerais si tu es capable de baisser en bas de 25 % si tu es à 25 et si ça en vaut la peine. Et si on avait à le faire, c'est sûr que tu t'entraînerais pas plus, mais que tu mangerais plus et mieux.
Mais il y a des choses quand même, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans l'incapacité d'atteindre, mais physiologiquement, hommes et femmes, on est différents. T'sais, je veux dire, moi, j'ai des fesses dans la vie. Je pense pas que du jour au lendemain, ce pourcentage de gras-là, oui, il y a quand même des muscles à aller chercher et autres, sauf que je peux pas faire des miracles qui partiront pas. C'est génétique.
Ben, c'est parce que tu ne peux pas être sans gras, Pascal. Faut que tu aies du gras quelque part. Toi, génétiquement, s'ils sont plus localisés dans les fesses, ils sont là. Puis, écoute, mais tu es à 25 % de gras pareil. Fait que là, si tu es en train de te mettre à critiquer ta morphologie, tu penses qu'un pourcentage de gras va changer ta morphologie, là, c'est là que ça marche pas.
Mais on est à cœur ouvert, là. Tu sais, ça, tout ça, là, c'est super intéressant, cet apprentissage, mais il y a quand même quelque chose de très psychologique. Puis dans la société, puis surtout les femmes, je pense, on se met beaucoup plus de pression. Puis ça tend à changer parce que les hommes commencent à s'ouvrir là-dessus. Avant, je veux dire, ils faisaient du déni ou ils nous en parlaient pas de leur complexe physique nécessairement. Sauf que il y a beaucoup de choses à revoir par rapport à la santé et ce que visuellement ça a l'air.
Ah, ben oui, absolument. Écoute, moi, mes femmes en perte de poids, là, Pascal, là, je les arrête entre 28 et 32 %. Là. Tu comprends? C'est là le poids santé. Fait que là, toi, tu tends vers un poids athlétique. Mais si tu veux aller plus loin, il faut que tu te comportes comme une athlète.
Okay. Le taux de gras...
Pas comme une fille qui veut se priver de nourriture.
Non, ouais. Ça, c'est dur.
Le taux de gras pour les hommes, là, qui peut être comme considéré comme un taux de gras athlétique versus un taux de gras normal, ça peut être quoi, Doc?
Ah, athlète, c'est 10% à un homme.
Okay. Les gars sont capables de descendre. Les gars en compétition sont capables de descendre à 3-4%. Ils sont quasiment sur
ouais,
le point
ben
de la
ça,
mort.
Ils
là.
Sont plus fonctionnels. Là.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, tu parles en culturisme, là, ils sont plus fonctionnels. T'sais, ils ont de la misère à monter les escaliers à la fin de la compétition. Là.
Et
comme moi, les joueurs de hockey, là, je le voyais, là, quand ils tombaient en bas de 10 % de gras à 8 % c'est trop maigre, ils perdent en efficacité. La performance diminue. Ça fait qu'il y a un pourcentage à maintenir. Je pense qu'on avait déjà parlé, Yannick, là, tu me diras si je me trompe, mais les gars en natation, ils ne peuvent pas avoir une musculature élevée et un pourcentage de gras très bas parce qu'ils vont caler dans le fond de l'eau. C'est une question de densité.
Mm.
La densité de l'eau, c'est 1. La densité d'un muscle, c'est 1,1. La densité du gras, c'est 0,9. Ça veut dire c'est pour ça que du gras, ça flotte. Et c'est pour ça que du muscle, ça cale. Fait que tu ne peux pas avoir un gars de natation avec des gros muscles puis pas de gras.
OK. Fait que, mettons qu'on dit pour un gars ordinaire, là, qu'on peut dire qu'il est en bonne santé, son taux de gras, ça peut ressembler à quoi?
20%.
Puis pour,
à 16%, est exceptionnel.
Ouais, c'est ça, c'est différent des gars des filles. T'sais, je veux dire, on a des portions
ben,
de notre corps.
Mesdames, je ne vais pas vous faire de la peine. Je ne vais pas vous faire de peine, mais vous êtes construites pour avoir des enfants.
Ah oui.
Et pour avoir des enfants, ben, il faut que vous stockiez plus de gras parce que ça prend de l'énergie à quelque part.
Fait que ce serait le temps que tu te mettes
à faire des enfants.
À faire des enfants, parce que
pour rentabiliser mon gras.
Ben, écoute, c'est la manière de le voir.
Hey, Doc, je sais que tu es pas mal sur les réseaux sociaux. Moi, je te suis au travers les réseaux sociaux, Doc Boucher ou Docteur Denis Boucher ou denisboucher.com. J'imagine que tu as vu ces gens-là qui sont, entre guillemets, des athlètes, mais qui sont aussi des coachs de vie, entre guillemets, qui parlent ouvertement de l'utilisation des stéroïdes anabolisants. C'est le genre de choses qu'on n'entendait pas quand on était jeune. T'sais, c'était pas quelque chose qui était jasé ouvertement. Là, ça se ramasse sur les réseaux sociaux. Puis il y a des gens qui n'ont pas étudié comme toi, qui n'ont pas de doctorat, qui disent ben, voyez, si vous prenez tant de cycles, c'est pas si grave que ça pour la santé. À quel point c'est pas criminel ce que ces gens-là font?
Ben, c'est illégal, là. Vendre des stéroïdes, c'est illégal. Mmh.
Mais pas les vendre, en parler. Donner des la recette idéale de stéroïdes sur les réseaux sociaux. Moi, je vois ça. Peut-être que c'est mon algorithme là, parce qu'il détecte que je suis régulièrement au gym. Mais je vois ça régulièrement. Deux, trois gars là,
ça fait peur pour
que
les
je
adolescents.
Vois qui parlent des cycles de stéroïdes pour avoir une belle vie normale par la suite.
Ben écoute, je sais pas si légalement tu as le droit d'en parler comme ça et d'en faire la promotion, mais je sais qu'en vente, c'est totalement illégal. Puis malheureusement, ils ont beau parler de cycles, mais ces gens-là sont dans un monde d'apparence. Ce qu'ils veulent, c'est du muscle, bien paraître, pas avoir de gras. Et c'est encore la notion de surdosage. Si, Yannick, quand tu vas être pépère, ta testostérone va diminuer, puis tu vas bander moins, puis tu vas aller voir ton médecin pour avoir du remplacement hormonal, ben, il va te prescrire un dosage. Mais ces gars-là en gym, là, c'est 10 fois le dosage que le médecin va te prescrire. Donc, ce que ça fait comme dommage, et je vais vous donner un exemple. OK? Si un muscle grossit à cause des stéroïdes, votre cœur, c'est un muscle. Donc, ce qui arrive, c'est que vous arrivez avec une hypertrophie cardiaque. Vous arrivez avec un gros cœur qui devient dysfonctionnel, qui a de la misère à pomper du sang. Ça a l'air flasheux en bas de 30 ans, mais quand vous ramassez à 40 ans, comme un de mes anciens clients que j'ai vu, j'ai fait un test de VO2 max, j'ai dit, écoute, ta condition physique là, est à 50% de ce qu'elle devra être pour un gars de ton âge. Et qu'avec le rapport que j'ai envoyé, il est allé voir son médecin qui l'a envoyé à un cardiologue. Bien, il a dit, tu as une hypertrophie cardiaque sévère. Puis, il faudrait que tu arrêtes ces conneries-là parce que ça ne marchera pas.
Aïe,
c'est
aïe.
Tout ça qui arrive. Les blessures. Fait que c'est un dommage sévère. Les gars qui sont arrivés dans mon bureau vont me dire, « Hey, Denis, je bande plus. Qu'est-ce que je fais? » Puis que je leur dise, « Bien, arrête les stéroïdes. » Puis qu'ils me disent, « Ouais, mais je bencherai plus autant. » Tu comprends le choix de vie qui n'a pas de sens. Pour l'apparence, tu te détruis. Tu as un choix à faire. C'est pour ça que moi, je suis carrément contre ça. On peut-tu juste être en santé, avoir une belle apparence physique, oublier de chercher la perfection? Puis,
mais là, on parle entre adultes, mais j'ai l'impression que c'est des discussions qui devraient être encore plus importantes dans les écoles secondaires, puis même avant secondaire, où là, tu as ta petite passe, où tu te développes, puis tu veux un peu te prouver physiquement parce que tu te cherches.
Pascal, tu as un point qui me touche énormément là, puis je vous le dis là. L'abus des substances, OK, des produits dopants dans le sport, là. Souvent, on attaque les athlètes, mais c'est une hypocrisie de société. Sais-tu d'où ça vient, ça? Ça vient des parents qui disent à leurs enfants, là, tu vas aller jouer au hockey, tu vas aller faire tes sports, puis il faut que tu gagnes, puis il faut que tu sois le meilleur, puis qu'ils l'engueulent parce qu'il n'est pas assez bon. Puis là, ils rentrent dans des endroits où les coachs sont des imbéciles, où la seule chose qui est importante, ce n'est pas le développement de l'athlète, mais la victoire. Puis ces jeunes-là sont placés face à des conditions où ils n'aiment plus le sport qu'ils font. Ils sont confrontés avec la peur de la défaite. Alors, pour éviter de la peur de la défaite, ils vont progresser. Ils vont y aller vers des protéines. Ils vont y aller vers d'autres substances qui sont naturelles. Puis à un moment donné, ils vont faire la transition vers les substances dopantes. Alors, on attaque les athlètes, mais c'est une hypocrisie de société. C'est mal organisé. Puis on ne comprend pas cette psychologie-là en arrière. Et ça, c'est une des choses qui n'est pas abordée comme sujet dans notre société, malheureusement.
Ce serait notre avantage de le faire. Puis en tant que parents, il faut en parler avec nos enfants qui vont devenir des ados puis qui vont justement vouloir bien paraître auprès des autres puis peut-être se retrouver dans les salles d'entraînement pour les mauvaises raisons. Doc Boucher, c'est toujours un plaisir de te jaser. Pour avoir accès à ton programme Maigrir intelligemment, on te rejoint sur denisboucher.com. Je rappelle aux gens que tu es docteur en médecine expérimentale. Puis j'espère te reparler dans les prochaines semaines, mon ami.
Hey, au plaisir. Bye tout le monde.
Salut.
Salut. Es-tu intéressant, Doc Boucher?
Très intéressant.
Hein? Là, tu es obligé de dire c'était quoi ton taux de gras devant tout le monde.
c'est beaucoup d'informations. Je pense que personne ne le réclamait, là.
Ah oui?
Personne.
Moi, j'ai aimé
ni
quand
toi,
t'as
ni
dit,
moi, ni les autres.
Ma grandeur, 5 à 7. Mon poids, c'est pas de tes affaires.
C'est vrai, pareil. Puis pourtant, il y a des. Mettons, lorsque je pèse le plus, c'est lorsque je suis le plus en forme.
Ouais.
Lorsque visuellement,
tu pèses le plus.
Ben oui, parce que ton muscle pèse plus.
Ouais. Ouais, c'est sûr.
Puis t'es plus découpé, t'es, ouais. Ben, tu sais, ça dépend ce que tu as envie d'avoir l'air. Mais lorsque je me suis trouvée le plus belle physiquement dans la vie, c'est quand je pesais plus. Fait que pourquoi j'ai un complexe de dire mon poids?
Ouais, c'est ça.
Tu comprends?
Tu te poses la question à toi-même.
On commence tous les shows maintenant, Yannick, de même. On va dire notre poids, puis on demande aux gens d'appeler pour le dire.
Moi, je suis pas complexé là-dessus, pas en tout.
Ça t'a jamais complexé?
Non, je suis à 190 sur 5 et 11. Je voulais pogner le 200.
T'es-tu trapu?
Je voulais pogner le 200 pour mon gala de lutte, j'ai pas été capable.
Ah oui, mais là, fallait que t'arrêtes les pizzas congelées chaque soir.
Ouais, c'est ça. C'était ça le problème.
Les chips au ketchup.
Mais je voulais pogner le 200 pour mon gala de lutte, c'est ce que je m'étais fixé comme objectif, j'ai pas été capable. J'ai monté à 193.
L'important, c'est que t'as fait un gala de lutte pour la bonne cause.
Exactement. Okay. Mais c'était juste pour les apparences. Merci beaucoup à Dernet Pneus et Mécanique et Noken Tires d'embarquer dans nos trips. Boulevard, on a nos classiques. Puis Rock'n'Ball, ça revient. C'est officiellement lancé. On a fait ça lundi. La nouvelle promo Rock'n'Ball, c'est la partie rock. C'est deux billets pour le show de Linkin Park, le 1er août au TD Garden, avant même leur passage au Québec. Le côté bar, c'est deux billets pour les Red Sox au célèbre Fenway Park, le 2 août, contre les Astros de Houston. Ça inclut le vol, l'hébergement, 500$ en argent de poche. Donc, on va faire les choses en grand avec ce concours-là. Ça te donne 500$ cash en plus. Donc, pour participer, dès que vous entendez une toune de Linkin Park, vous allez l'inscrire directement au blvd.fm. En fait, vous regardez l'heure et vous inscrivez l'heure sur le site blvd.fm. Il y a un finaliste qui va être nommé chaque jour dans Gravel dans le retour. Parmi toutes les inscriptions qui seront reçues jusqu'au 17 avril le prochain, il y a 3 participations par jour qui sont permises. Donc, plus tu écoutes Boulevard, plus tu maximises tes chances de gagner. Aussi, avec Noken Tires, chaque mercredi dans Rage Against le matin, on va gâter une personne au hasard parmi toutes les inscriptions pour rouler avec des pneus neufs cet été. Ça vaut jusqu'à 1 000. Et tout ça, c'est possible grâce à Noken Tires et Dernet Pneus et Mécaniques qui embarquent dans nos trips constamment. Donc, un gros merci puis bonne chance à tout le monde. Nous autres, on fait une courte pause, 11h14 et on vient.
Rage Against le matin. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot.
11h20, l'Open Mic qui tire à sa fin. C'est Marceau le midi qui va commencer dans les prochaines minutes. Pascal qui répond aux auditeurs, qui parle de son poids.
Oui, on partage plein de choses, dont de la détresse.
Il y a même des auditeurs qui m'ont envoyé leur propre poids. Puis il y a des métiers qui ne doivent pas être faciles pour surveiller le poids. Tu sais, camionneur, là.
Ah, t'es tellement
quand
sédentaire.
Quand tu fais du US,
oui.
Là, t'es dans ton camion pendant 8 heures. Ou 12 heures, puis des fois, c'est peut-être même plus à la fin de ta journée quand tu calcules toutes tes heures. Mais tu manges dans le camion.
Tu es souvent au dépanneur, tu es souvent dans la restauration rapide, puis tu tannes. Le père d'un de mes petits copains au secondaire, sa mère, faisait ses lunchs pour la semaine. C'était pour lui, là, la plus belle preuve d'amour
ben
qu'il
oui.
pouvait y faire. Là. De partir avec sa petite glacière, avec des beaux lunchs maison, santé, avec des légumes. Je m'en rappelle, Richard était tellement heureux. Là.
Mais beaucoup de restaurants.
Ben
c'est
oui,
dur de
c'est
surveiller
tough.
Pendant ce temps-là. T'sais. De plus en plus, il y a des programmes d'exercice pour les camionneurs avec
ah
des
ouais?
élastiques à l'intérieur du camion.
Ah, c'est bon!
Fait qu'ils essaient de faire leurs élastiques. Il y en a qui courent, mais tu n'as pas de douche des fois. Tu n'as pas de
non.
douche proche.
Non, puis tu vas courir où? Dans le stationnement d'une halte routière? Pour
ben, tu peux courir. Quand, mettons, des fois, tu peux être à pendant quoi? 12 heures, 18 heures?
Faut que tu te reposes aussi, là.
Il y en a des fois qui arrivent le vendredi, puis la shop est fermée. Fait qu'il faut qu'ils passent la fin de semaine dans le stationnement pour
ouais.
reprendre lundi, faire vider le camion. Fait qu'ils peuvent marcher bien en masse, mais c'est tough quand t'es camionneur d'avoir, d'être capable de garder un poids idéal.
Il y a des comptables qui nous écrivent et qui nous disent hey, « nous, si on fait pitié dans le temps des impôts, c'est très sédentaire. » On est là-dedans, là.
Ouais, c'est quand là, la date limite pour les impôts? T'as-tu été
oui.
chez ta comptable, toi?
Oui, hier.
Puis?
Parce que moi, j'ai perdu la personne qui s'occupait de
ça. As-tu été claire avec toi?
Oui.
Et claire, hein? C'est,
oui.
C'est-tu celle-là que je t'ai...
Ben oui, c'est parce que là, j'ai crié,
ouais.
J'ai lancé des SOS, là.
Ouais.
Parce que quand tu t'attaches...
Moi, elle m'avait dit, quand j'avais été la rencontrer la première fois, là, parce que j'avais été déçu d'un de mes anciens comptables
c'est
qui
ça,
était beaucoup trop chaud quand il faisait rapport d'impôts. Puis là, elle m'avait dit, moi, je te fais venir ici, mais c'est pas clair qu'on va faire affaire ensemble.
Elle aime pas les gens désorganisés ou autres.
Exactement.
Elle était tombée sur le bon moineau en plus.
Fait que là, elle avait dit, j'ai besoin de te rencontrer pour savoir si ça va bien aller, toi et moi. Ce que je vais avoir dans mon travail, c'est du plaisir. J'ai pas de temps à perdre.
C'est bon,
puis il faut que tu sois classé.
Elle aime déjà, cette femme.
Fait que t'étais la rencontrer hier.
Ben, je l'ai appelée. On est là-dedans,
okay.
dans l'ouverture de notre relation. Mais pour vrai, ça... Je me demande si c'est pas plus important ta relation avec ton comptable qu'une relation interpersonnelle amoureuse.
Toi, puis elle,
là.
Vous fitez, là, 100%.
Mais ben, elle trouvait ça le fun que mes petites pochettes soient cordées. Puis que...
Oui, oh oui. Mais c'est pas ça qu'elle a avec moi.
Non, je penserais pas non plus.
Mais elle me trouve fin.
T'es-tu le genre de personne qui fouille dans toutes ses factures à la fin de l'année, là, puis qui a c'est où ça? Puis,
oui.
Oh, moi, j'ai vu des gens autour
oui.
de moi faire ça toute ma
c'est
vie.
La dernière minute.
C'est la chose la plus épouvantable.
Pour mes affaires, c'est la dernière minute. Pour les affaires des autres, là, je suis correct. Je suis toute classe.
Fais-toi un tiroir avec des pochettes, oui. puis à chaque fois que tu as ces papiers, et là, quand tes pochettes sont prêtes, t'as juste à la glisser dedans.
Oui, maman.
Assurance,
oui,
impôt de l'an dernier.
Je vais le faire. Je te le promets.
Ah, oui.
Les vulgaires machins, obsolètes sur les ondes de boulevard. On vous revient tout de suite
après. Comme toi.